Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr et aujourd'hui j'interviewe Margot Roux qui est digital nomade et qui tient le blog Sport & Send dont je mettrai le lien dans l'article qui correspond au podcast. Donc c'est parti! Salut Margot!
Salut Isis!
Donc, première question, pourquoi est-ce que tu es devenue digital nomade ?
Alors, je suis devenue digital nomade, je pense, comme tous les autres digital nomades, parce que je me sentais pas du tout épanouie dans ma vie en entreprise. Donc ça, c'est le point un peu qui réunit tout le monde. Après, moi, j'ai toujours aimé le voyage parce que mon père, en fait, bossait chez Air France. J'ai eu une enfance d'expatrié à l'étranger. Et ensuite, j'ai repris une vie classique où j'ai vraiment enchaîné le parcours élitiste français normal, baccalauréat avec mention, prépa littéraire, Sciences Po, stage dans des grosses boîtes, mémoire de fin d'études. Et j'ai enchaîné tout de suite directement sur un CDI. Et en fait, je me suis retrouvée en CDI après toutes ces années de travail en me disant « Ok, donc tout ça pour ça, en fait. » Parce que je me suis sentie vide, pas bien. Je voyais pas d'intérêt, en fait, à ce mode de vie. Et je constatais que les gens autour de moi n'étaient pas spécialement épanouis. Et je me suis dit « Mais 40 ans comme ça, mais je vais pas y arriver, quoi. C'est impossible. » Donc, de là, au bout d'un an, j'ai fait une rupture conventionnelle, une première, où je suis partie faire un tour du monde. Parce que je me suis dit « Bon, ça se trouve, t'as juste besoin de prendre un peu l'air, de voyager, etc. avant de reprendre ta carrière, le truc normal, parce que pour moi c'était impossible de vivre différemment en fait. Et puis notamment parce que les normes sociales, sociétales, on m'avait appris que ça en fait, à être en CDI, à avoir une carrière, etc. Et donc j'ai voyagé, j'ai commencé à voir que là certaines personnes vivaient différemment parce que j'étais dans des endroits où il y avait des digital nomades déjà. Et je me disais, ce serait vraiment génial que je puisse faire ça, mais je voyais pas comment moi l'appliquer à mes compétences. Donc je suis rentrée en France, j'ai repris un CDI pendant 2 ans et demi, et puis en fait au fur et à mesure j'ai recommencé à sombrer. Alors je dirais pas que j'étais en burn-out, mais clairement j'étais pas du tout heureuse et je me voyais pas du tout continuer comme ça. Donc j'ai refait une seconde rupture conventionnelle en me disant, bon bah cette fois tu te lances, tu tentes le coup, t'as 5 ans d'expérience pro derrière toi entre tes stages et tes CDI et tu verras bien quoi. Et au pire tu te plantes et tant pis, mais au moins t'auras essayé de te sortir de ce truc où t'es pas bien. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Génial. Et du coup, comment tu as choisi justement ce que tu allais faire comme activité ? Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors moi, je suis professionnelle dans la communication, donc je bossais dans les directions de la communication de grosses entreprises à Paris, donc j'avais déjà ce bagage-là de communication plutôt institutionnelle. Et par ailleurs, en fait, pendant mon tour du monde, j'ai créé un blog autour du surf, du voyage, etc., où je faisais pas mal d'interviews, des collaborations avec les marques de surf et tout. Et je faisais aussi par ailleurs pas mal de yoga, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de réunir un peu toutes ces compétences, le fait que je sois assez présente sur les réseaux sociaux aussi, que ça me passionne, pour me faire un double profil un peu comme Instit et Market Digital, plutôt dans ce milieu-là du surf et du yoga. Et en fait, je suis partie à Bali quand j'ai décidé de devenir digital nomade, qui est plutôt déjà l'endroit idéal pour se lancer dans le digital nomadisme parce que c'est le hub mondial, enfin là où il y a le plus de digital nomades au monde. Et en plus, c'est vraiment la mecque du surf et du yoga pour le coup. Donc c'était pour moi l'endroit idéal pour vraiment m'épanouir à ce niveau-là, trouver des bonnes idées et potentiellement trouver des moyens de faire du business quoi. Donc voilà, ça a été un peu mes axes premiers pour cette nouvelle vie.
Et comment t'as fait ta transition entre ton job et quand tu t'es lancé, et non seulement lancé mais aussi que t'es devenu digital nomade?
Alors j'ai eu la chance de signer une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir devant moi 1 an de chômage. Donc j'avoue que les premiers mois j'ai beaucoup tâtonné, et puis je pense que quand tu changes de vie comme ça, c'est un tel chamboulement intérieur aussi que t'as aussi besoin un peu de temps pour digérer le truc, toi te recentrer aussi, te poser les bonnes questions, et puis tu tâtonnes parce que tu sais pas trop, donc tu tentes 2-3 trucs. Moi j'ai tenté pas mal de choses au départ, et puis au fur et à mesure j'ai affiné, et puis en fait je suis allée là où je connaissais quoi. Donc je me suis créé un statut d'auto-entrepreneur en France, je me suis inscrite sur les sites de freelance français parce que je me sentais pas à l'aise à bosser en anglais, et j'ai trouvé assez rapidement des clients français pour faire des missions pour eux quoi. Donc j'ai commencé comme ça. Et par ailleurs, je faisais des petites missions de marketing pour un pote à Bali qui fait du marketing de villa, donc tu vois, compte Instagram classique. Et puis, j'ai lancé une marque de yoga aussi. Donc, je me suis dit que j'aimais le yoga, j'aimais les leggings. Et j'ai fabriqué une ligne, enfin, j'ai fait fabriquer une ligne de leggings et de brassières que j'ai commercialisée ensuite à Paris avec une amie qui est prof de yoga là-bas. En me disant, bon, bah voilà, je teste plusieurs trucs et puis on verra ce qui me plaît, ce qui prend. Voilà, je me suis dit, cette année, c'est ta première année, c'est l'année où tu te cherches. Donc, amuse-toi et on verra bien.
Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'était super facile, que tu t'es dit, ah ben tiens, j'ai cette idée, je vais faire ça, tiens, j'ai eu cette idée, je vais faire ça. Est-ce que ça a été aussi facile que ça, ou est-ce que il y a eu des difficultés, peut-être des questions que tu t'es posées, des doutes?
Alors pour me lancer, ça n'a pas été difficile parce que dans ma tête, j'étais vraiment en mode je fonce. Donc j'ai pas eu de problème, tu vois, à formaliser les idées, à faire les choses. Par contre, derrière, moi, j'ai un vrai problème avec l'administratif, donc je me suis fait piéger sur des trucs un peu idiots, notamment par rapport à Pôle emploi, qui, tu vois, j'avais pas créé mon statut au départ, enfin, je l'avais pas déclaré à Pôle emploi, donc ils m'ont coupé les allocs quand j'ai commencé à déclarer, donc finalement, j'avais plus d'argent, et puis j'avais mes impôts à payer l'année d'avant, donc, enfin, voilà, j'ai dû rentrer en France en catastrophe au printemps pour gérer tout ça. Heureusement, ma famille était là pour m'aider, mais j'avoue que ça a été un peu le creux de la vague où j'étais là, bon, bah, c'est cool. Bon, finalement, je m'en suis sortie, puis c'est dans les moments difficiles aussi où ben là tu dis là j'ai plus le choix, faut y aller, et finalement bah tout finit par s'arranger avec un peu de travail. Mais non, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Et puis même le fait d'être loin de Paris, dans un pays comme l'Indonésie où les visas sont aussi très compliqués, l'immigration est compliquée, la vie est assez intense aussi, ça reste un pays en développement, donc t'as plein de choses à gérer aussi, mine de rien. Enfin, c'est clairement pas facile. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un gros changement de vie, donc même au niveau à titre personnel, t'as aussi des choses à mettre derrière, des choses à digérer, des choses à réorganiser. Toi, tu t'apprends à te connaître encore plus parce que t'as plus de repères, donc t'es obligé de vraiment te demander qui tu es et où tu vas et pourquoi et qu'est-ce qui fait sens pour toi, quelle est ta mission dans la vie, pourquoi tu fais ça en fait, pourquoi t'as eu cette remise en question, pourquoi c'est venu, pourquoi maintenant et pourquoi après au final. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'introspection, de clarification, de remise en question. Et non, c'est sûr que c'est pas facile, hein, mais c'est un peu comme une renaissance, quoi. Et plutôt, je dirais même une naissance. Naissance de ta deuxième vie, naissance de quitter vraiment. Et c'est tellement gratifiant d'arriver enfin à être quitter vraiment. Et tu te sens tellement mieux, quoi, en fait. Tu te sens tellement bien. Donc voilà, c'est dur, mais c'est pour la bonne cause.
Du coup, là, tu parles de manquer un peu de repères quand tu arrives dans un nouvel endroit. C'est un truc qui me parle en ce moment parce que, du coup, j'ai arrêté de voyager avec la communauté Wi-Fi Tribe et maintenant, je suis toute seule. Donc, je suis un peu en train de découvrir certaines choses sur moi-même et j'ai un peu des challenges. Comment est-ce que tu as fait pour te recréer ce que je vais appeler un écosystème, c'est-à-dire réussir à te sentir bien à Bali, à savoir où aller bosser, comment avoir ton quotidien, comment avoir tes choses qui te nourrissent.
En fait, quand je suis arrivée, les premiers temps, j'ai fait une semaine de surf camp et ensuite j'ai fait une semaine de retraite de yoga. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir rencontrer des gens, justement, et j'ai eu la chance de rencontrer très très rapidement des Françaises qui sont devenues des amies et qui sont aussi du coup digital nomades, donc elles m'ont un peu aiguillée dans cette prise de nouvelles habitudes, ce nouveau quotidien. Et puis en fait on se rend très vite compte en arrivant quelque part que bon, déjà tout le monde est un peu dans le même cas, hein, tout le monde est loin de chez soi, tout le monde a besoin de recréer un cercle amical, professionnel, des repères et tout, donc les gens sont déjà beaucoup plus ouverts aussi aux rencontres. Et en fait très rapidement en fait tu te crées une petite communauté. Donc moi j'ai quelques amis français que je vois très souvent, soit pour travailler, soit pour faire autre chose, mais qui du coup sont un peu ma petite famille ici, et des amis aussi pas que français, mais qui sont aussi digital nomades, avec qui je vais travailler souvent dans les cafés, qui me font découvrir des cafés. Moi des fois j'en découvre, je leur fais découvrir aussi. Enfin, du coup on a un peu ce petit groupe où on s'entraide, où on se soutient, on va travailler ensemble pour se motiver. Ça n'a pas été trop difficile pour le coup. Et puis comme je disais tout à l'heure, Bali c'est un tel hub pour les freelances que on est un peu tous dans le même cas, donc finalement c'est assez vite possible d'avoir son petit monde, ses petites routines, etc.
Ok, est-ce que t'as essayé d'autres destinations à part Bali pour en tant que nomade digital?
Non, pas depuis que je suis devenue digital nomade. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un tour du monde. Donc, comme j'avais mon blog, c'est vrai que j'avais un peu testé ce mode de vie où il fallait de toute façon trouver des endroits avec Wi-Fi pour poster tes photos, tes articles, faire tes interviews, etc. etc. Et j'avoue que là, il y a eu des moments où c'était un peu rocambolesque. Alors, le pire, ça a été la Nouvelle-Zélande et l'Australie en van. Donc là, c'était clairement, je travaillais depuis les McDo. Donc c'était, j'ai dû faire tous les McDo de la côte est en Australie, quoi. C'était assez drôle. Donc voilà, voilà, voilà. Mais bon, après là, depuis que je suis à Bali, c'est clair que c'est différent. Et puis en plus, franchement là, il y a des fois même, même les cafés où t'as des digital nomades et tout, il y a des moments où il y a tellement de bruit, où il y a le wifi qui saute. Enfin, tu peux pas te concentrer, tu peux pas. Enfin, tu mets 1000 ans à charger une photo, c'est insupportable. Mais c'est des conditions de travail. Parfois, ça te fait un peu péter un câble, mais bon, après, ça fait partie du mode de vie aussi, et c'est le jeu, et bon, le reward derrière, il est tellement cool d'avoir cette liberté et tout que ça va. On s'y fait.
On peut imaginer, tu vois, si le plus gros souci, c'est Internet qui saute, on peut se dire que la technologie, elle va évoluer et que probablement, ce sera plus un souci d'ici quelques temps. Et après, ouais, je te posais la question par rapport à d'autres destinations, parce que quand je t'écoute raconter Bali, j'ai l'impression, enfin moi, pareil, j'ai vraiment eu cette vision, je suis pas encore allée à Bali, mais je fais qu'en entendre parler tout le temps et j'ai l'impression que c'est vraiment le spot des digital nomades numéro 1, quoi. Et encore, moi je suis à Playa del Carmen au Mexique et lui aussi j'en avais beaucoup entendu parler, mais maintenant que je vois commencer ici, oui il y a des digital nomades, mais je pense vraiment dans une moindre mesure par rapport à Bali. Et du coup c'est vrai que je me dis je pense que t'as quand même des destinations où ben, en ayant comme ça autant de digital nomades, ça devient peut-être plus facile, entre guillemets, de retrouver des repères, de devenir ami avec des gens qui ont le même état d'esprit que toi, de trouver des endroits où travailler, etc. Et ça l'est peut-être moins dans d'autres endroits. Moi, par exemple, je suis allée à Rio en août. Et tu vois, pour trouver un café un café sympa où bosser avec du wifi, bah, c'était quand même pas évident, quoi. C'est pas trop l'état d'esprit là-bas. Et donc, je trouve que quand tu cherches à vraiment te recréer des repères, si tu vas juste pour un petit bout de temps et que tu as juste besoin de chercher un café avec du wifi, bon voilà, tu te débrouilles, tu vas trouver le McDo, tu vas trouver Starbucks, etc. Mais si tu as vraiment besoin ou envie de te recréer un écosystème, d'être là assez longtemps, d'avoir des amis, d'avoir un peu tes routines et tout, je trouve que c'est là que ça peut être plus compliqué selon les destinations. Et voilà, je voulais juste rebondir sur ça parce que c'est un truc que j'expérimente aussi en ce moment.
Ouais, après ça dépend ce que tu veux, hein. C'est est-ce que tu veux une vie où tu voyages et où justement t'es un peu backpacker et t'es un peu immergé dans une autre culture et tu te débrouilles un peu comme tu peux, ou est-ce que tu veux te recréer une vie un peu facile entre guillemets, parce que Bali clairement c'est assez facile quoi pour travailler et tout. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, ben tu vas travailler, il y a l'air conditionné, le wifi, t'as ton cappuccino, ton machin. Enfin, tu pourrais aussi bien être à Londres ou à Brooklyn ou je sais pas où, tu vois, c'est vraiment ça. Et t'as que des blancs et que des gens entre 28 et 40 ans qui font tous les mêmes choses. Et je sais que, tu vois, j'en ai parlé à certains potes de passage et eux, c'est clairement, ça leur plaisait pas du tout, quoi. Ils se disaient, en fait, tu perds en authenticité et tu perds un peu le côté exotique, aventurier du voyage et de la vie nomade tel qu'on l'entend au sens premier du terme. Donc c'est vraiment un choix, mais après, si tu veux vraiment, effectivement, comme tu disais, te recréer une routine dans un endroit un peu tropical, un peu paradisiaque, ici, c'est clair que t'as vraiment le mix entre la vie occidentale et tout son confort. Et cette vie un peu tropicale, facile, encore un peu en pays en voie de développement et tout. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a autant de freelance, digital nomades ici, pour le coup.
Ouais. Ouais, je trouve ça super vrai ce que tu racontes. Et je vais encore rebondir dessus, mais ça me rappelle quand j'étais en deuxième année, enfin dernière année d'école, en dernière année de master, on avait un genre de coach pour nous aider à déterminer un peu nos projets professionnels et personnels. Et pendant une séance, je lui racontais que j'avais adoré mon expérience de 6 mois au Vietnam quand j'étais stagiaire et tout. Et je lui raconte un peu comment c'était. Il me demande pourquoi ça m'avait plu. Et une fois que j'ai fini de lui raconter, il me dit « Mais donc finalement, ce que t'aimes, c'est dans Est-ce que c'est vraiment aller dans un pays pour découvrir la culture, ou est-ce que c'est retrouver des internationaux à l'étranger? Et je t'avoue que ça m'avait fait bien chier qu'il me dise ça, parce que je m'étais rendu compte qu'il avait raison, qu'en fait, ce qui m'avait le plus plu, finalement, c'était de retrouver des gens avec qui je me sentais à l'aise dans cette culture, et quand même d'apprendre à vivre avec cette culture, mais dans un contexte qui restait très occidental. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore un peu dans cette démarche. Donc, je pense que ce qui est important à retenir, c'est de savoir ce qu'on cherche personnellement. Je pense qu'il y a des digital nomades qui sont justement pas dans ce délire-là, qui préfèrent être tout seuls pour expérimenter vraiment l'authenticité locale, etc. Donc, à chacun sa manière. Et justement, il y a plusieurs manières de voyager en termes de rythme et de multiplicité des destinations. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, le rythme que tu as choisi et pourquoi ?
Moi, je fais un peu à l'envi, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand je suis en France, je me remets dans le lundi-vendredi parce que je m'adapte aux gens et au rythme parisien. Parce que, en fait, je rentre tous les 3-4 mois en France pour 3 semaines, 1 mois, généralement. Par contre, quand je suis à Bali, là, c'est beaucoup plus cool et je m'écoute beaucoup plus. C'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais prendre mon temps, je vais pouvoir, je sais pas, aller faire du yoga ou aller marcher sur la plage ou quoi ou qu'est-ce, prendre un café tranquille, lire un bouquin. Sachant que la journée commence en France à vers 9h et donc ça fait du 4h ici à Bali l'après-midi. On va dire que j'ai vraiment le temps tranquille où je suis pas dérangée ou en termes d'email, de coup de téléphone ou quoi que ce soit. Donc je prends vraiment le temps le matin, c'est un peu la slow life. Et après je m'y mets et en fait je bosse un peu tous les jours, ce qui n'est pas forcément très bien parce que du coup je me laisse pas trop de jours off. Mais du coup, comme mes journées sont beaucoup plus allégées, ça se passe beaucoup mieux, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas des énormes journées où je vais enchaîner pendant 8 heures non-stop. Et en fait, ça va me laisser plus de temps pour la créativité, pour souffler, pour écouter aussi moi mon rythme biologique, etc. Et je vais très bien pouvoir aussi couper ma journée, arrêter de travailler pour aller, je sais pas, faire une session de surf, et puis rentrer 2 heures après, reprendre le boulot, et voilà quoi. Donc finalement, c'est une vie où tout est un peu entremêlé, j'ai pas tellement de frontières entre le boulot et la vie perso et tout. Et en fait, je pense que quand t'es passionné par ce que tu fais, c'est aussi la conséquence, c'est que tout est un peu entremêlé et tu t'inspires un peu de toute ta vie pour, enfin, les deux s'alimentent finalement. Et du coup, c'est un rythme qui me plaît plutôt bien. Alors au début, je me foutais un peu la pression parce que quand tu commences, tu dis faut que mes clients ils soient contents de moi, faut que je bosse à fond, faut que j'y arrive et tout. Et en fait, je me suis retrouvée l'été dernier à la limite, enfin pas du burn-out, mais tu vois, je travaillais beaucoup trop. Du coup, je profitais plus du tout de la vie à Bali, je faisais plus rien quoi. J'étais tout le temps en train de bosser. Et là, j'ai vraiment ralenti et je me suis trouvé un rythme où finalement, quand même par semaine, je me fais une to-do list, tu vois, j'ai mes objectifs et tout. Par contre, je m'organise vraiment comme je veux, je me dis pas tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. C'est plus, dans ta semaine, t'as ça à faire et après, tu t'organises un peu comme tu veux. Voilà.
Et tu disais tout à l'heure que tu travaillais dans des cafés. Est-ce que tu travailles toute la journée dans des cafés ou tu varies ?
Alors ça c'est pareil, ça dépend un peu de l'envie du matin et puis surtout si j'ai un pote ou une pote qui me propose ça te dit qu'on aille à tel endroit aujourd'hui, enfin je suis assez flexible quoi. Je peux très bien rester chez moi tranquille ou si j'ai envie d'aller voir du monde ou si j'ai envie de manger un truc sympa, d'être dans une ambiance différente, je vais dans les cafés, enfin c'est vraiment à chaque jour je choisis en fonction de mon humeur et ce dont j'ai envie quoi. Voilà.
Tout à l'heure aussi, je pense que c'était en off, mais tu me disais que finalement t'es entre Paris et Bali. De ce côté-là, ton rythme, c'est quoi ?
Alors, je reste 3-4 mois à Bali et je rentre en France 3 semaines, 1 mois généralement. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne depuis le printemps en fait. Parce que mes clients sont en France et que du coup ça me permet de les voir, parce que aussi ma famille me manque, mes amis aussi, et j'ai besoin de les voir régulièrement, donc ça me permet de les voir. Et puis mine de rien, ça me permet aussi de me recentrer, parce que ça te fait garder quand même un pied dans la réalité, dans la vraie vie, entre guillemets, et ça recentre aussi, ça fait prendre du recul, de revenir un peu à ses repères et un mode de vie, entre guillemets, normal. Et voilà, et c'est vrai que la vie à Bali, elle est assez intense, je le disais tout à l'heure, alors c'est un peu difficile à expliquer, mais ici, les émotions sont assez décuplées, il se passe passe tout le temps des choses. On est dans un endroit où déjà il y a beaucoup de catastrophes naturelles entre guillemets. On a eu beaucoup de séismes l'été dernier. Il y a eu l'éruption du volcan. Enfin voilà, il y a quand même une espèce d'ambiance où les choses sont assez intensifiées. Et puis ça reste une destination de vacances où la fête est omniprésente, où les gens sont toujours dans une espèce d'émulation énorme. Et du coup, ça fait aussi du bien parfois de calmer un peu le jeu et de revenir à une vie plus stable entre guillemets. Donc ça me fait du bien d'avoir cet équilibre entre les deux.
Ok. Et tu as évoqué tes clients. Tes clients, comment ils perçoivent le fait que tu sois à distance? Est-ce qu'ils sont complètement ok? Est-ce que ils te demandent de venir quand même physiquement de temps en temps? C'est quoi ta relation avec eux?
Alors, il y en a pour lesquels c'est complètement dématérialisé. D'ailleurs, je ne les ai jamais vus de ma vie. Donc, voilà. Mais après, pour le coup, c'est vraiment des missions type rédaction d'articles ou community management. Et après, j'ai deux autres clients à Paris qui, eux, exigent, entre guillemets, qu'on se voit tous les, justement, 3-4 mois parce que, ben, faut qu'on se voit de visu pour gérer des choses ou il faut que je puisse venir prendre des photos. Par exemple, j'ai un client qui est un restaurateur. Donc lui, il est content que je puisse venir tous les 3 mois prendre des photos de son restaurant, des produits, etc. pour que je puisse alimenter ma banque de données et faire les posts derrière, la communication, etc. Donc après, ça dépend en fait. Je pense qu'on choisit aussi les clients en fonction de son rythme et inversement, quoi. Et après, c'est la relation de confiance qui s'installe et un rythme aussi qui s'installe. Et à partir du moment où il y a ça et que ça convient aux deux parties, ben ça se fait bien, quoi. Donc voilà.
Et faire des allers-retours comme ça entre Paris et Bali, j'imagine que ça a un coût. Est-ce que aujourd'hui tu gagnes suffisamment ta vie du coup pour pouvoir te permettre ça? Enfin, j'imagine que oui. Ma question derrière, c'est plutôt est-ce que tu es satisfaite à quel point tu gagnes ta vie et combien de temps ça t'a mis pour arriver à ce niveau-là?
Alors sur la question de l'argent, en fait, moi, enfin, ma première année de digital nomadisme, pour moi, l'argent c'était secondaire entre guillemets. L'idée c'était l'exigence numéro un, c'était de devenir autonome, indépendante et de pouvoir rester justement à Bali et garder ce mode de vie freelance qui me permette de vivre comme je veux. Donc, je m'étais dit, il faut que je gagne un minimum, mais si je gagne pas beaucoup, c'est pas très grave. L'important c'est que je puisse vivre. Donc ça c'était l'exigence numéro un. Donc c'est vrai que j'ai commencé en pratiquant des tarifs assez bas. Pour avoir cette indépendance assez rapidement. Maintenant, aujourd'hui, je vois effectivement les choses différemment parce que je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure de ma valeur et puis la relation de confiance qui s'installe avec les clients fait aussi que, ben, à un moment donné, tu discutes aussi de revaloriser un peu la prestation, etc., etc. Sur les allers-retours, j'ai mon client principal qui me paye la moitié des billets d'avion parce que bon, il conçoit que bah, la vie à Paris est plus chère aussi et que du coup, j'ai pas les moyens forcément de vivre aussi bien à Paris qu'à Bali avec le salaire que j'ai. Là, pour te donner une idée, je gagne 1 700 € net par mois en ayant 5 clients. Donc sur des missions type community management, rédaction d'articles, strat de com, des choses. Donc pour le coup, c'est plutôt des tarifs bas que je pratique par rapport au prix que je devrais pratiquer si j'étais à Paris. Voilà. Après, on s'est aussi arrangé là-dessus, c'est-à-dire que les clients, ils acceptent que je sois loin aussi parce que je pratique des tarifs moins chers que si j'étais à Paris parce que la vie est moins chère, etc., etc. Voilà.
Et à ton avis, c'est quoi le minimum qu'il faut pour vivre à Bali ?
Le minimum qu'il faut pour vivre à Bali, la vie à Bali, elle est pas aussi peu chère qu'on peut le penser. Je dirais qu'il faut au moins 1 200 € par mois.
Ok. En termes de logement, vu que tu vis quand même une partie de l'année à Bali, est-ce que tu as un appartement que tu loues à l'année et dans lequel tu reviens ou bien tu changes d'appartement à chaque fois? Comment tu gères ça?
Justement, les tarifs des logements ici sont pas très très chers. Du coup, j'ai une maison à Bali où j'ai toutes mes affaires. Enfin, en fait, je pense que j'avais quand même besoin d'avoir ma maison, enfin mon endroit à moi, donc j'avais cette possibilité-là, donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à Bali, tu payes ton loyer pour un an. Donc tu payes tout cash d'un coup et après t'es tranquille le reste de l'année. Et quand je suis à Paris, ben je suis chez ma mère, donc j'ai pas de loyer à payer, tu vois, j'ai pas de frais, donc ça me permet quand même d'équilibrer un peu. Mais voilà, donc j'ai quand même un peu deux maisons, on va dire, aux deux coins de la planète.
D'accord. Est-ce que tu te rappelles au début quand t'es arrivée à Bali, comment tu avais fait pour trouver les premiers cafés ? Est-ce que c'était uniquement avec les recommandations des gens que tu avais rencontrés ? Ou bien au tout début, tu as commencé autrement ? Et comment tu as fait pour trouver ces lieux où travailler ?
Alors moi, je suis une grosse fan d'Instagram. Donc, et puis bon, je pense que ça m'a fait aussi tenir de regarder un peu ce qui se passait à Bali dans les derniers mois de ma vie professionnelle à Paris. Et c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de recherches sur... sur Instagram, les comptes des blogueurs, des autres digital nomades qui étaient déjà sur place et tout, pour checker un peu les endroits. Et j'avais déjà, j'avoue, ma petite liste d'endroits que j'avais envie de tester en arrivant. Après, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que des gens que tu rencontres sur place et qui connaissent déjà des endroits, qui ont eu des coups de cœur et qui t'emmènent, qui te font découvrir. Donc c'était un mix des deux, du coup. Et bon, bah, c'est vrai que là où je suis, enfin, moi, je suis à Canggu, à Bali, donc c'est vraiment l'endroit où il y a tous les trucs un peu tendance, etc. Et la présence sur Instagram de tous ces cafés, ces digital nomades et tout est plutôt énorme. Donc, c'est assez facile, en fait, de trouver les endroits où aller.
Ok, bah, écoute, ça me donne une astuce à moi-même parce que je t'avoue que c'est un canal que j'avais pas forcément pensé à exploiter pour cette recherche-là. moi, j'utilise plutôt Work From, Nomadlist et les recommandations. Ou alors, je me balade dans la rue et je regarde sur quoi je tombe. Mais du coup, c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à Instagram. Mais en fait, je pense que c'est une super source. Donc, je vais essayer. une autre question qui, moi, m'avait beaucoup... je me posais beaucoup cette question au début. C'est par rapport au téléphone. Au début, j'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. Comment on faisait pour avoir peut-être gardé son téléphone français, avoir un téléphone local. Toi, comment tu gères ton téléphone, sachant que tu vogues entre deux pays ?
Ben, j'ai deux téléphones, en fait. J'ai investi dans un iPhone d'occasion au printemps, là, parce que je me suis dit qu'il fallait que je garde un lien avec la France. Et puis, tu sais, il y a tous les trucs un peu débiles auxquels on pense pas, du type ton compte PayPal, où il te faut un code d'authentification, pareil pour MailChimp. Enfin, il y a plein de trucs de sécurité comme ça, où tout est lié à ton numéro de téléphone français et où, du coup, il faut changer tes cartes SIM, c'est chiant. Et pareil, en fait, je gère plus de 5 comptes Instagram, et avec l'application Instagram, tu peux n'en gérer que 5 maximum par téléphone. Donc c'est pareil au niveau du business, j'ai été obligée d'investir dans un second téléphone pour pouvoir travailler de façon complète et sans galérer. Donc voilà. Et effectivement, c'est plutôt facile. Enfin, t'as deux cartes SIM, deux téléphones. Tu gères assez bien finalement les deux. C'est comme quand t'es en France et que t'as un téléphone pro et un téléphone perso. Ça se fait bien. Donc c'est comme ça que je fonctionne.
Ok, c'est marrant que tu parles de PayPal parce que j'ai exactement le problème du fameux SMS en ce moment. Comme je change régulièrement de pays, ils ont remarqué que ils perçoivent ça comme une activité anormale. Donc au début, je leur ai demandé de m'envoyer un code par email, donc c'est passé. Après, je sais plus quoi, c'est passé. Et puis maintenant, le seul truc qu'ils veulent bien me laisser faire, c'est de m'envoyer un texto sur mon téléphone français. Que moi, j'ai pas activé, j'ai juste gardé un forfait à 2 € pour garder mon numéro et pouvoir utiliser WhatsApp avec. Et WhatsApp me sert énormément ici, mais je veux pas réactiver le numéro parce que j'ai peur de recevoir des pubs, des appels et finalement payer pour des trucs que je consomme pas. Et du coup, ça fait 3 semaines ou 1 mois que mon compte PayPal est bloqué. Et il faut absolument que je m'en occupe. Et j'en ai parlé à quelqu'un que je dois payer en fait, et qui m'a dit, il m'arrivait la même chose. Et du coup, moi, j'ai donné le numéro de ma mère, et donc c'est ma mère qui reçoit le texto de PayPal pour pouvoir confirmer que c'est bon. Donc en fait, moi, je vais faire pareil. Je vais donner le numéro de mon père. Donc voilà, ça c'est un exemple de petite galère qui peut arriver. Je pense que l'avantage dans ton cas, c'est que comme tu as vraiment deux destinations phares, tu peux te permettre d'avoir que deux cartes SIM, enfin ta carte française et ta carte à Bali. Mais moi, en fait, je change de numéro, je reprends une SIM locale à chaque fois que je change de pays. Et là, en 6 mois, j'ai changé 5 fois de pays. Donc, si à chaque fois il fallait que j'appelle PayPal pour changer mon numéro, c'est chiant, quoi. Donc, voilà. donner le numéro de ses parents ou d'un pote qui est en France, enfin quelqu'un, ça peut être une solution.
Ouais, après, moi, le numéro français, il y a l'avantage aussi. Enfin, tu vois, comme je suis déclarée à l'URSSAF en France, enfin, c'est mon numéro officiel pour tout le monde, quoi. Et c'est mon numéro depuis des années. Et c'est vrai que, bah, pareil comme toi, j'ai downgradé mon forfait. Je suis chez Soch et j'ai pris le forfait à 5 euros, là. Mais du coup, je peux encore recevoir des messages téléphoniques. Donc, tu vois, des fois, c'est la banque, des fois, c'est l'URSSAF, des fois, c'est... Enfin, c'est quand même bien de pouvoir garder un lien, tu vois, pour les trucs administratifs comme ça. C'est une telle galère, parfois, que c'est quand même bien de pouvoir garder un lien qui te permette de gérer les trucs à distance, parce que c'est pas évident, quoi. Et puis, tu vois, officiellement, je suis en France quand même, donc c'est quand même bien de pouvoir avoir ce truc-là, quoi. Mais bon, après, c'est chacun s'organise en fonction de son mode de vie aussi, évidemment.
Ouais, non, mais il se peut que je finisse par faire ça. Moi, comme aujourd'hui, je suis limitée côté budget. Bon, je préfère opter pour cette option-là, mais je pense que quand les revenus seront un peu plus là, je choisirai aussi cette solution qui paraît quand même plus simple à gérer, quoi. Ouais. Je pense qu'au travers de toutes tes réponses, on a quand même pas mal compris ce que tu aimes dans ce mode de vie. Est-ce que tu pourrais résumer en 3 points clés ce qui, pour toi, est vraiment ce que tu préfères dans ce mode de vie et de travail ?
Alors, bah, en numéro 1, la liberté, c'est la valeur fondamentale de ce mode de vie, c'est-à-dire pouvoir disposer de ton temps comme tu l'entends, pas être, tu vois, obligé de pointer à 9h le matin à ton travail et d'en repartir qu'à 18h30, 19h. Et tu vois, le présentéisme, c'est vraiment ce qui me rendait folle en France, en entreprise, parce que je trouve que ça bride la créativité à un point pas possible, et puis ça te discipline, ça te bloque finalement dans tout, quoi. Et on voit bien aujourd'hui que les gens n'arrivent plus à gérer leur vie de cette façon, qu'il y a un énorme déséquilibre vie privée, vie professionnelle, et que le temps passé au travail en plus n'est pas forcément toujours productif ou bien exploité, parce que on passe des heures en réunion qui n'ont pas forcément lieu d'être, parce que des fois on reste au travail alors que ben on n'est pas forcément en forme, on n'a pas forcément du travail d'ailleurs encore à faire, mais on reste parce qu'il faut rester. Enfin, il y a des choses aberrantes comme ça encore en France et que j'ai constaté dans mes années de vie professionnelle que je comprenais pas du tout. Donc voilà, cette valeur là de liberté, de pouvoir organiser ton temps comme tu veux, c'est juste génial. La deuxième chose que j'adore, c'est de pouvoir travailler. En fait, tu peux changer de travail tous les jours, tu peux créer des nouvelles choses tous les jours, tu peux développer un nouveau projet tous les jours, et ça, c'est juste génial, parce qu'en fait, ça te permet de te remettre en question en permanence, de te demander chaque jour si ce que tu fais, ça te plaît vraiment, si ça t'épanouit, si ça correspond à tes valeurs, si ça fait sens pour toi, si tu veux vraiment continuer à mettre ton énergie dedans, et ça, je trouve ça top aussi, parce que ça te permet d'être dans une itération constante au niveau personnel, de créer aussi constamment, et ça alimente tout, quoi. Et je trouve ça hyper, hyper cool en termes de développement personnel et d'épanouissement pro et perso, pour le coup. Et puis, un troisième point, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ouais, je pense que ça, c'est un mode de vie qui... Bah, c'est, pour moi, c'est l'avenir du travail, en fait. C'est quelque chose qui permet d'être productif au maximum. Là où aujourd'hui, je pense qu'en entreprise, les salariés ne le sont pas forcément, parce qu'ils ne sont pas poussés au maximum de leur capacité, parce qu'on ne leur fait pas spécialement confiance, parce qu'ils sont dans des routines, des process qui les freinent, qui les brident. Et je pense que, tu vois... Le mode de vie digital nomade, ou en tout cas freelance, ou en tout cas donner un peu plus de liberté aux collaborateurs, c'est quelque chose qui va chambouler le monde du travail dans les prochaines années, et qui va changer le paradigme de tout pour tout le monde, quoi. Et ça va être génial. J'ai hâte de voir les évolutions. D'ailleurs, t'es en plein dedans. Enfin, je pense que tu constates, toi, à travers toutes tes interviews, tes rencontres, tes lectures, tout ce chamboulement-là. Et pour moi, enfin, qui l'expérimente là depuis quelques mois, je trouve ça top. Et en parlant en France avec plein d'amis, ou en rencontrant des gens et tout, tout le monde est plutôt envieux de ce mode de vie, et tout le monde alors se demande est-ce que je pourrais vraiment le faire moi. Souvent c'est plutôt non, mais c'est quelque chose qui donne envie à tout le monde et je pense que c'est, on va y venir de plus en plus quoi. Donc voilà, c'est aussi être un peu précurseur de ce truc-là, tester avant tout le monde et de pouvoir aussi guider le chemin. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai fait un e-book et je propose des coachings aussi sur mon blog pour aider les gens à sauter le pas et pour aller vers quelque chose qui les épanouit davantage. Donc voilà, ce côté un peu précurseur et mission d'accompagnement et de découverte et tout me plaît beaucoup.
Ok. Et à l'inverse, pour toi, quels sont les peut-être trois challenges ou trois difficultés de ce que tu rencontres dans ce mode de vie et de travail ?
Alors les trois challenges, je dirais bah déjà la solitude. Hein. Enfin clairement, tu pars seul, tu construis les choses seul. Il y a personne qui est là pour t'aider, donc faut quand même avoir un peu de courage, de confiance en soi pour se lancer. Et c'est pas toujours évident. Ensuite, je dirais l'organisation. Comme je disais tout à l'heure, au début, je me suis beaucoup foutu la pression et finalement, je passais mon temps à travailler parce que tout est poreux. Il y a pas de frontière entre le temps passé au travail et le temps perso, donc c'est vrai que en termes d'organisation, il faut quand même réussir à s'aménager des plages de travail et des plages de vie perso. Et après, tu as toute la partie effectivement administrative qui est très très compliquée, je trouve, parce que déjà, tu dois gérer la partie te mettre en freelance au niveau de l'administration en France. Donc déclarer tes revenus, calculer les taxes, gérer tes actualisations Pôle emploi, etc., etc., faire tes factures, enfin tout, payer ta mutuelle, machin. Et après, t'as aussi toute la partie vie internationale où là, faut gérer tes visas, tes billets d'avion, la monnaie locale, la banque, l'assurance maladie à l'étranger. Enfin, en fait, t'as vraiment tout un volet administratif qui est assez énorme et qu'il faut que tu gères seul et il faut que tu te renseignes tout seul et c'est pas toujours facile non plus, quoi. Et donc voilà, c'est un peu les trois choses qui, moi, m'ont un peu pas posé problème, mais qui ont été des challenges, ouais.
D'accord, ok. Avant-dernière question, je crois que je la garde toujours un peu pour la fin parce que quelque part, j'assume pas de la poser, mais à la fois, ça m'intéresse et je la pose de plus en plus. C'est autour des relations amoureuses et donc du fait de potentiellement trouver quelqu'un ou... Quand on est digital nomade, sachant qu'il y a même un site web qui a été créé, un site de rencontre spécial digital nomade et tout, donc il y a quand même la question qui se pose, et moi j'en parle aussi avec les gens dans la communauté Wi-Fi Tribe avec qui je voyageais. J'aimerais bien avoir ta vision là-dessus. Toi, comment est-ce que tu vois les rencontres en tant que digital nomade et comment tu perçois ça par rapport à toi, ta situation personnelle ?
Moi je suis plutôt un profil à relations longues. Donc en fait quand je suis partie, j'ai quitté un homme avec qui j'étais depuis 5 ans et demi parce que j'ai eu une remise en question globale sur un peu toute ma vie, donc j'ai vraiment tout laissé derrière pour me créer une nouvelle vie. Là en étant en m'étant installée à Bali, du coup, j'ai une stabilité que certains digital nomades n'ont pas qui me permet de recréer en fait une relation longue à distance. Ce que j'ai fait d'ailleurs, sans trop le vouloir, mais bon, ça s'est fait comme ça. Après ce que je constate, c'est que le Tinder marche énormément pour le coup entre les digital nomades. Les rencontres se font facilement et les relations amoureuses se créent, etc. Par contre, après, c'est clair qu'en termes de stabilité à long terme, quand on n'est pas stable dans sa vie, c'est assez difficile. Et même moi qui suis, je suis avec la même personne depuis un an là à Bali. Les périodes où je suis en France, forcément c'est à distance, c'est un peu compliqué. Et après, étant donné que je sais pas non plus ce que je vais devenir dans les mois qui viennent, les prochaines années, enfin je veux dire, je sais même pas si je serai encore à Bali l'année prochaine, dans 2 ans, c'est difficile de se projeter. Après je pense que voilà, faut s'écouter à partir du moment où on a besoin de stabilité, où on est vraiment engagé dans une relation amoureuse, on fait en sorte que celle-ci dure et de s'adapter au rythme de l'un et de l'autre et potentiellement de revoir un peu ses plans. Après, si la priorité c'est plutôt justement le voyage, le nomadisme et explorer ce truc-là dans lequel pour le coup moi je suis en ce moment, c'est une dynamique dans laquelle je suis, c'est ma priorité. Pour le coup, la relation amoureuse passe en deuxième position et voilà. Mais je pense que c'est chacun fait un peu à sa sauce en fonction de ses priorités, de son stade aussi de vie, quoi. Si demain, je sais pas, tu tombes folle amoureuse et que tu décides de t'installer quelque part avec cette personne et de fonder une famille, etc., bah c'est sûr que la partie peut-être voyage passe un peu au second plan. Enfin voilà, je pense que c'est la vie se fait au fur et à mesure et il n'y a pas de choses figées et voilà quoi.
Ok, merci beaucoup pour ton avis sur la question. Et donc, dernière question, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir digital nomade ?
Je lui conseillerais de s'écouter avant tout, si au fond de lui il sent que c'est le mode de vie auquel il aspire et qui pourra le rendre plus épanoui et lui apporter un mode de vie qui lui convient mieux, mais qui fonce vraiment, qui n'hésite pas du tout. Et je constate aussi, du coup, à travers tu vois les missions de coaching que je fais, que les peurs des gens sont vraiment très très pas bête, parce que c'est pas des peurs bêtes, au contraire, c'est des peurs humaines et c'est normal, mais c'est souvent peur de la solitude, peur de pas y arriver, de l'échec. On a une peur de l'échec en France qui est énorme. On se dit pas que, potentiellement, même si on rate ça, derrière, il y aura des opportunités, que ça nous fera rebondir sur d'autres choses. On pense que à je vais échouer et donc ça va être horrible et voilà. Peur de pas trouver de logement, peur de pas gagner d'argent, enfin toutes ces peurs qui sont très très limitantes en fait et qui empêchent les gens de se lancer, et en fait les gens attendent pour finalement potentiellement ne jamais sauter le pas alors que c'est ce qu'ils auraient eu envie de faire depuis le début. Donc je dirais qu'il faut se lancer, pas avoir peur, avoir confiance en ses capacités. Et avoir confiance aussi en la vie. Enfin, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est en se lançant aussi qu'on fait les bonnes rencontres, c'est en étant au bon endroit qu'on se découvre des ressources cachées aussi, c'est en étant en difficulté qu'on déploie une espèce de résilience qui fait aussi qu'on développe des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir être en capacité de développer, et au final c'est pour le mieux parce qu'on se révèle un peu à soi-même et on arrive à un stade où on est fier de soi, où on a un mode de vie qu'on a mérité aussi et dont on peut être fier et qui nous rend aussi épanouis, quoi. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est toujours difficile de sauter le pas, et puis il faut le faire aussi, je pense, dans les meilleures conditions. Moi j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, c'est sûr qu'avoir un an de chômage ça aide, quoi, et faut pas négliger non plus cette partie pratique, logistique, financière, administrative, qu'il faut quand même faut bien se renseigner en amont, faut sécuriser un minimum, faut aussi pouvoir compter sur ses proches en cas de coup dur, faut sécuriser quand même un peu les choses avant de partir. Mais si toutes les conditions sont réunies et que c'est juste l'impulsion, le courage de sauter le pas, je dirais n'attendez pas, parce que le pire dans la vie c'est d'avoir des regrets, et je me dis toujours quand j'ai une décision à prendre, qu'est-ce que t'as envie de te dire quand t'auras 80 ans et que tu regarderas en arrière, est-ce que t'auras envie de te dire je l'ai pas fait parce que j'avais peur, ou est-ce que t'auras envie de te dire je l'ai fait parce que j'en avais envie et je regrette pas un seul instant de m'être lancé, quoi. Donc c'est quelque chose qui aide beaucoup à prendre des décisions généralement, voilà.
Génial. Écoute, je trouve que tout ce que tu nous as dit dans l'interview est super inspirant, même pour quelqu'un qui est déjà devenu digital nomade comme moi, parce que je pense qu'il y a quand même En fait, ça s'arrête jamais de travailler sur soi et de découvrir ses besoins et ce dont on a envie, et puis ça évolue et tout ça. Donc moi, ça m'a inspirée aussi. Avant qu'on se quitte, je voulais juste raconter l'anecdote de ce qui s'est passé avant qu'on arrive à faire cette interview. À savoir que donc on a décidé de faire cette interview, donc Margot était à Paris, puis elle est repartie à Bali, moi je suis au Mexique, et donc j'utilise un outil qui s'appelle timeanddate.com pour regarder en fait par rapport au décalage horaire quels sont les créneaux possibles pour pouvoir s'appeler, et donc on se met d'accord sur un créneau, et puis le matin où je pensais qu'on aurait l'interview, j'ouvre mon Skype et je me rends compte que Margot m'avait écrit la veille en me disant je suis là, je suis sur Skype, et je me dis mince, mais j'ai raté le truc ou quoi. Et en fait cette situation s'est passée deux ou trois fois, je crois, jusqu'au moment où j'ai enfin compris le problème. C'est que en gros, je devais appeler Margot quand il était 9h du matin chez elle et 20h chez moi, sauf que ce que j'avais pas compris, c'était que c'était 20h chez moi la veille. Et ça, c'est un concept que mon cerveau a eu du mal à comprendre pendant toute cette période. Mais donc, on a enfin réussi à résoudre ce problème et à s'appeler à la bonne heure. Donc, je suis très contente. Et du coup, ben, merci à tous ceux qui auront écouté cette interview jusqu'à la fin. Et puis, à bientôt pour une prochaine. Et merci beaucoup à toi, Margot.
Merci à toi, Isis.